Et bonjour, frères et sœurs. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de parler de l'Évangile, parler de votre foi à un proche, à un collègue de travail, à un voisin, puis qu'il vous réponde « Ah, ben c'est bon pour toi, ça. Continue. Mais pour moi, j'en ai pas besoin. » J'avais un oncle qui nous a souvent répété ça, puis malheureusement, jusqu'à ses derniers jours, il continuait de répéter ça. Mais est-ce que c'est vrai que la foi chrétienne peut être bonne pour une personne et pas bonne pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vrai que c'est subjectif comme ça? Est-ce que c'est une question d'opinion, de situation personnelle, de sentiment? Est-ce que la foi est vraiment relative à chacun? Mais selon ce que la Bible affirme, non, la foi, elle est vraie pour toute personne. Elle est fondée même sur des preuves. Des preuves qu'on ne peut peut-être pas aujourd'hui toucher de nos mains ou voir de nos yeux, mais des preuves qui ont été fournies à l'humanité. Des preuves solides, des témoignages qui ont été rendus à Jésus, qui sont authentiques et qui sont d'origine divine. Ça, c'était une question de débat lorsque Jésus prêchait à ses concitoyens, les Juifs à l'époque, et les chefs religieux venaient parfois lui faire des reproches. Pour qui tu te prends? Qui es-tu? Quelles preuves tu peux nous fournir de tes prétentions? Et c'était un sujet de débat. Puis le débat a fait rage dans un épisode de l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude de l'Évangile de Jean. Nous avons terminé au moment où, au printemps, nous avons terminé notre étude au moment où Jésus venait de faire un miracle à Bethesda. Il a guéri un infirme, mais les Juifs étaient vraiment en colère parce qu'il a osé faire ça le jour du sabbat, le jour du repos obligatoire. Donc, Jésus a guéri un homme qui était infirme depuis longtemps. Il a fait du bien, mais comme Jean les appelle, les Juifs, c'est-à-dire les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, sont venus le voir et ils lui ont fait de sévères reproches d'avoir osé faire ça le jour du sabbat. Même, ils étaient tellement en colère qu'ils voulaient sa mort. Ils voulaient le faire mourir, s'en débarrasser. Et Jésus, quand il leur a répondu, il a répondu quelque chose qui les a choqués encore plus. Il a dit, vous faites pas bien de vous choquer parce que mon Père travaille jusqu'à maintenant. Il travaille aujourd'hui même, donc moi aussi je travaille. Là, ils étaient vraiment en colère parce qu'en disant ça, ils se faisaient fils de Dieu. Et pour les Juifs, ils savaient très bien que ça voulait dire qu'ils se faisaient égal à Dieu. Mais Jésus n'avait pas dit des paroles en l'air, c'est vraiment ce qu'il disait. Il est l'égal de Dieu, il est le fils de Dieu. Donc les Juifs ont été scandalisés et là, Jésus leur donne une longue réponse en deux parties. On a vu la première partie ce printemps. Et donc dans sa réponse, Jésus démontre qu'il n'est pas en train de blasphémer. Il n'est pas en train d'agir contre la volonté de Dieu. Au contraire. Dans la première partie, on a vu au printemps, Jésus démontre que c'est Dieu lui-même qui lui a dit quoi dire et dit quoi faire. Jésus ne fait rien par lui-même. Il accomplit vraiment le mandat que Dieu lui a confié. Et son mandat est d'une grande ampleur. Dieu a nommé son fils Jésus le sauveur de l'humanité, le juge de l'humanité aussi. C'est par lui que Dieu va accorder la vie ou va laisser dans la mort éternelle. Donc, ça passe par Jésus, selon le jugement même de Jésus. Les œuvres que le Père a données au Fils sont de la plus haute importance pour l'avenir de chaque personne. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie qu'on étudie, Jésus va indiquer, il va donner des preuves que ce qu'il dit est vrai. Donc, les preuves qui ont été fournies, alors même qu'il déclare être le Fils de Dieu. Donc, lisons ensemble Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. L'Évangile de Jean, chapitre 5. Il y a des passages de la Bible qui sont plus pratiques, d'autres sont plus théologiques. L'Évangile de Jean, c'est souvent théologique, mais ça a une incidence directe sur notre vision de qui est Jésus et qu'est-ce que ça veut dire de le considérer comme le Seigneur. Jean 5, à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais c'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et brille, et vous avez voulu vous le réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne reçois pas la gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc Jésus commence ici sa réponse, cette partie de sa réponse, en convenant que s'il est le seul à rendre témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Donc il est d'accord que s'il est le seul, son témoignage n'est pas recevable. L'Ancien Testament montre que pour dire quelque chose, ça prend deux ou trois témoins. Il doit y avoir des témoignages qui concordent. Mais Jésus va plus loin que ça. Il dit même, si je suis le seul à rendre témoignage de moi-même, c'est pas juste que mon témoignage n'est pas recevable, mais il n'est pas vrai. Parce que si Jésus est vraiment Fils de Dieu, il doit avoir un autre témoignage en plus. Ça ne peut pas être seulement lui qui le dit. C'est pas possible. Parce qu'en tant que Fils de Dieu, il est envoyé du Père. Donc, s'il est vraiment Fils de Dieu, il doit y avoir une attestation à quelque part. Mais justement, il y a un autre témoin, et c'est Dieu le Père lui-même. Verset 32, il dit, « Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Il est en train de parler de Dieu, de l'Éternel, de Dieu le Père. D'ailleurs, Jésus dit, il disait au verset, juste avant notre passage, au verset 30, il dit, « Moi, je ne peux rien faire de moi-même. » Tout ce qu'il fait, ce n'est pas sa volonté, mais c'est la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, c'est le Père lui-même qui a envoyé Jésus et qui lui a commandé quoi dire, quoi faire. Jésus accomplit vraiment la mission que le Père lui a confiée. Donc, lorsque Jésus témoigne de lui-même, lorsqu'il fait des déclarations solennelles, jusqu'à dire qu'il est Fils de Dieu, l'égal de Dieu le Père, bien, c'est le Père qui lui a commandé de dire ça. Donc, il n'est pas en train de blasphémer ou d'agir contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement son témoignage personnel, c'est un message du Père, un message divin. Et là, pour soutenir ça, Jésus va présenter trois points. Ça tombe bien, nos messages ont souvent trois points. Mais premièrement, Jésus va dire qu'il va parler du témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a rendu témoignage à lui. Jean-Baptiste a annoncé Jésus. Deuxièmement, le témoignage qui vient de Dieu lui-même, Dieu le Père. Et troisièmement, Jésus expose et explique pourquoi, c'est quoi la raison principale, pourquoi les hommes rejettent ces témoignages-là. Pourtant, quand on présente en cours, lorsqu'on plaide ou qu'on se défend, on présente une preuve, le juge va évaluer si la preuve elle est recevable, si elle est convaincante, si elle est digne de foi. Pourquoi les preuves présentées par Jésus, les témoignages rendus à Jésus, sont généralement pas reçus? Pourquoi? Pourtant, ils sont dignes de foi, il n'y a rien qui peut nous faire croire qu'elles sont fausses. Pourquoi en général les gens refusent les preuves qui sont données à la nature de Jésus? Mais commençons d'abord par le témoignage de Jean-Baptiste, versets 33 à 35. Il dit, vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je vous dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle
qui brille. Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Donc Jésus n'a pas besoin d'une confirmation d'un homme comme Jean-Baptiste pour savoir qui il est. Même s'il est né dans les environs de l'an zéro de notre calendrier, en tant qu'être humain, le Père lui a révélé qui il était. Là. Il a su qu'il était fils de Dieu. Il n'avait pas besoin d'un autre témoignage extérieur. Il avait le témoignage du Père. Donc lui n'a pas besoin d'un homme pour attester qui il est. Il sait très bien qui il est. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a mandaté Jean-Baptiste. Parce que les hommes, en général, ont besoin d'une preuve. Et Jésus dit, vous avez bien fait d'aller voir Jean-Baptiste. Vous en aviez besoin pour être sauvés. Donc, Jésus sait que les hommes peuvent avoir besoin de preuves pour croire et être sauvés. Avoir besoin de plusieurs témoignages. Puis le témoignage de Jean-Baptiste était une preuve. Jean-Baptiste lui-même était reconnu comme un prophète. Donc, dans la population générale, tous étaient d'accord que Jean-Baptiste, c'est un prophète. Sa naissance était manifestée vraiment une intervention divine. Vous vous souvenez comment il est né, Jean-Baptiste? Sa mère, Élisabeth, était stérile. Donc, c'était su que son père, Zacharie, et son épouse, Élisabeth, ne pouvaient pas avoir d'enfant. Zacharie, qui était sacrificateur, n'allait pas avoir de successeur. Mais un ange est venu dire à Zacharie, ton épouse Élisabeth, elle va être enceinte. Zacharie doutait. Et l'ange lui dit, OK, mais parce que tu as douté, tu vas être muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et c'est ce qui est arrivé. Zacharie était incapable de parler jusqu'à au moins 9 mois plus tard. Et Jean est né, puis là, enfin, la bouche de Zacharie s'est déliée. Mais ça manifestait vraiment l'intervention de Dieu. Là. Donc, le petit enfant, là, c'était pas n'importe qui, ça allait être un prophète. Même, selon les propres mots de Jésus, c'est le plus grand prophète qui existait. Là. Mais cet événement-là de la naissance, par l'intervention divine, ça a été connu. On sait par Luc 1, 65, que la nouvelle s'est répandue beaucoup, même dans toute la Judée. Tout le monde savait. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste s'est mis à prêcher dans le désert, les gens accouraient pour aller entendre ce qu'il disait. Ils étaient déjà convaincus que cet homme-là, c'était pas n'importe qui, il était envoyé par Dieu. Donc, Jean-Baptiste était un prophète digne de confiance, digne de foi, et il a reçu la mission directement par Dieu de rendre témoignage à la vérité, de présenter enfin la vérité, que la population pouvait être débarrassée du discours hypocrite des chefs religieux, connaître la vérité. Et cette vérité-là, bien, elle est venue en personne, c'est Jésus. Et Jean-Baptiste a introduit Jésus. Jean-Baptiste a même dit de Jésus qu'il est la vérité. Il est la vérité incarnée. Donc, Jean lui-même a été comme une lumière qui a brillé, une lampe qui a brillé dans les ténèbres, et les gens, les foules qui sont venues à lui, plusieurs se sont fait baptiser pour témoigner de leur repentance. Ils ont été éclairés. Ils ont pu se réjouir à cette heureuse nouvelle que le Christ arrivait. Mais c'est une petite lumière, hein? C'est comme une lampe de nuit, là. À comparer à Jésus qui est venu, qui est la lumière du monde. Donc, Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus, et il l'a même appelé publiquement l'agneau de Dieu, celui qu'on attendait dans l'Ancien Testament, celui qui devait venir souffrir et mourir à la place du peuple pour le salut. L'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, même Jean-Baptiste l'a dit, qui est oint du Saint-Esprit. Donc, c'est un témoignage fort, là. Un témoignage que Jean-Baptiste, un message, une confirmation que Jean-Baptiste a reçue directement de Dieu. Et Dieu lui avait même dit, celui sur qui tu vas voir le Saint-Esprit descendre, là, il est descendu sous la forme d'une colombe, c'est lui. C'est mon fils bien-aimé. Donc, le témoignage que Jean-Baptiste a rendu à Jésus a été très utile et efficace pour beaucoup qui se sont convertis par la suite lorsqu'ils vous ont compris que c'était Jésus l'agneau. Certains l'ont compris seulement après la mort de Jésus et sa résurrection. Là, ça leur est revenu. Ah, oh, c'était lui. On l'a crucifié. Ils se sont repentis au jour de la Pentecôte. Mais ça a commencé, cette démarche-là, dans leur cœur, même par le témoignage de Jean-Baptiste. Mais Jésus dit qu'il a un témoignage par rapport à son identité qui est encore plus fort. Un témoignage qui vient directement de Dieu. Un témoignage que c'est vraiment le Père qui l'a envoyé, qui a envoyé Jésus sur terre. Verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que le Père m'a envoyé. Et ça a un sens très profond quand Jésus dit que le Père l'a envoyé. Il n'est pas simplement né comme un homme. Il existait avant, depuis toute éternité dans le ciel. C'est Dieu le Fils que Dieu le Père a mandaté et a envoyé naître sous la forme d'un homme. Il l'a envoyé sur terre. Donc, comment le Père a témoigné? Où se trouve ce témoignage-là que le Père a rendu au Fils? Est-ce qu'il a écrit dans les nuages? Mais Jésus montre ici deux façons dont le Père a témoigné de l'identité de Jésus. D'abord, dans les œuvres même que Jésus a accomplies. Verset 36. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Tous les miracles que Jésus a accomplis, là, les gens qui le voyaient, ils étaient stupéfaits. Et ça me frappe à plusieurs reprises dans les évangiles. Les gens voient un miracle que Jésus a fait, puis ils glorifient non seulement Jésus, mais ils glorifient Dieu. Okay? Ceux qui avaient la foi en voyant les œuvres que Jésus faisait, les miracles, savaient que ça venait de Dieu. Et ils glorifiaient Dieu. Et inversement, quand Jésus a délivré celui qui était possédé par une légion de démons, il l'a libéré, puis il l'a envoyé, il dit, va vers tes proches maintenant, puis annonce-leur tout ce que Dieu le Père a fait pour toi. Il part, il va proclamer tout ce que Jésus a fait pour lui. Ça va ensemble. Hein? Ce que Jésus fait, c'est le Père qui le fait. Donc, tous les miracles que Jésus a fait, il pouvait guérir n'importe quelle maladie. Il y a des supposés guérisseurs aujourd'hui, là, qui sont limités pas mal dans leur capacité. Jésus pouvait même guérir les infirmités, même les infirmités de naissance. Quelqu'un qui est né aveugle, il pouvait lui accorder la vue. Quelqu'un qui lui manque un bout de jambe, il pouvait la rallonger. Il pouvait rendre la mobilité à quelqu'un qui était paralysé, même paraplégique. Il pouvait même ressusciter les morts. Il avait le contrôle sur les éléments de la création, sur le vent, sur la mer qu'il pouvait calmer. Il pouvait même marcher sur l'eau. Il pouvait défier toutes les lois de la physique que l'on connaît. Il a vraiment montré qu'il était tout puissant. Ces œuvres-là témoignent de sa nature. Et c'est le Père qui a permis que Dieu le Fils sous forme humaine ait tout ce pouvoir-là. Ce n'est pas pour rien, c'est pour attester qu'il est vraiment celui qu'il prétend être. Donc, il est un messager digne de confiance. Il vient vraiment de la part de Dieu. En plus, lorsqu'on voit Jésus agir, la manière dont il parle avec les gens, qu'il aborde, qu'il est prêt à aller vers ceux qui sont de mauvaise réputation, les pécheurs, qu'il est prêt à écouter ceux qui ont le cœur gros et qui veulent se confier à lui, qu'il y a de la compassion quand les gens ont faim et veulent les nourrir. Tous les actes de bonté de Jésus, de justice, de salut, tout cela, ça révèle le caractère de Dieu. Ça met en évidence vraiment qui est Dieu. L'amour que Dieu a pour l'humanité qu'il a créée, pour sa création. Donc, c'est pour cela que les gens croyaient en Jésus et glorifiaient le Père. Mais plusieurs parmi les chefs religieux juifs, et même dans la population, les Juifs qui accusaient Jésus, ils ne saisissaient pas ce témoignage-là de Jésus. Le témoignage que Dieu rendait à Jésus par tous les miracles. Et lui en demandait d'autres même. Quel miracle tu vas faire pour qu'on croie? Alors qu'il venait d'en faire des centaines, des milliers. En fait, il rejetait ce témoignage-là, qui était pourtant une preuve recevable et d'un grand poids. Jésus dénonce que s'ils ne reçoivent pas ce témoignage-là, par les œuvres qu'il fait, c'est parce qu'ils ne croient pas réellement en Dieu. Ça montre leur incrédulité. Verset 37, « Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Donc, si vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, vous ne croyez pas à son messager, c'est-à-dire Jésus, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment en relation avec Dieu. Vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes comme aveugle à ce que Dieu fait. Vous ne l'entendez pas. Sa parole n'est pas dans votre cœur. Vous êtes déconnecté de celui que vous prétendez adorer. Vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Donc, c'est fort ce que dit Jésus. Il s'adresse à des gens qui sont supposés d'être des maîtres spirituels, des guides pour la population, puis il leur dit, « Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. La parole de Dieu n'est pas dans votre cœur. Vous ne connaissez pas Dieu. Et c'est pour ça que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. » Pourtant, Dieu est en chair et en os devant eux. Mais l'incrédulité rend aveugle, sourd, insensible. L'incrédulité fait en sorte que quelqu'un lit la parole de Dieu et ne sera pas touché. Il y a un deuxième témoignage que le Père a rendu au Fils, et ça concerne justement la parole de Dieu, c'est les Écritures. Jésus dit que non seulement les œuvres qu'il accomplit témoignent de lui, c'est un témoignage du Père, mais toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament, c'est ce que les Juifs considéraient comme la Bible. À l'époque, ils n'avaient que l'Ancien Testament, qu'ils appellent aujourd'hui le Tanakh. Bien, c'est un témoignage rendu à Jésus. C'est un témoignage que le Père, par son esprit, a inspiré dans les Écritures pour rendre témoignage de Jésus à l'avance. Les chefs religieux juifs comprenaient l'importance des Écritures. Ça n'avait aucun doute, là. Jésus dit au verset 39, « Vous sondez les Écritures. » Ou dans certaines versions, c'est à l'impératif, là, « Sondez les Écritures », mais je pense que c'est plutôt à l'indicatif. Mais en tout cas, les Juifs sondaient les Écritures, on le sait. Les scribes passaient leur journée à étudier la loi. Ils débattaient même de la loi. Donc, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc, pourquoi ils sondaient autant les Écritures et ils se pensaient plus élevés que le reste de la population? Parce que dans leur tête, plus ils apprenaient la loi, plus ils la maîtrisaient, plus ils la possédaient par cœur, plus ça démontrait qu'ils allaient avoir la vie éternelle. Pour eux, le critère principal pour hériter de la vie éternelle, d'une place dans le royaume des cieux, c'était de connaître la loi. Donc, ils étaient les mieux placés pour connaître la loi. Donc, ils pensaient avoir la vie éternelle en étudiant les Écritures. Mais ce qu'ils n'avaient pas saisi, c'est que les Écritures annoncent la venue et l'œuvre du Fils de Dieu. Et c'est lui qui procure la vie éternelle. Ce n'est pas de lire l'Écriture elle-même qui procure la vie éternelle. C'est de croire en celui qu'elles annoncent. Et elles annoncent la venue du Christ, du Messie. Puis ça, toutes les Écritures annoncent la venue du Messie. La loi, les récits historiques, comme le livre de Ruth que nos sœurs vont étudier, les prophéties, les psaumes, tous à leur manière pointent à Jésus. Et lorsque Jésus vient, on comprend, ah, c'est ça que ça voulait dire. Toutes les Écritures s'accomplissent en Jésus, dans sa personne, dans son ministère, dans ses œuvres. Donc, si beaucoup de Juifs n'ont pas voulu aller à Jésus pour avoir la vie, c'est la preuve qu'ils ne lisaient pas correctement les Écritures. Leur lecture des Écritures était fausse. Donc, s'ils étaient aveugles pour voir Dieu, c'est qu'ils étaient aveugles pour voir le message que Dieu leur transmettait dans les Écritures même. C'est encore le cas aujourd'hui. Beaucoup de Juifs, dès leur jeune âge, là, lisent l'Ancien Testament. Ils vont étudier même des prophéties comme dans Ésaïe 53. Ils ne voient pas que c'est Jésus dont Ésaïe parlait. Il y a un aveuglement qui est volontaire. Donc, beaucoup de Juifs lisent et étudient le Tanakh sans reconnaître que Jésus en est l'accomplissement. Donc, pour eux, le Tanakh devient impuissant à les sauver. C'est le cas de plusieurs théologiens, malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'universités, qui étudient en théologie, mais qui ne croient pas réellement à ce qu'ils lisent. Ils l'étudient comme un livre d'antiquité intéressant, une œuvre littéraire grandiose, et on peut passer sa vie, on peut faire de multiples doctorats à étudier la Bible sans y croire. Ils restent détachés, ils ne comprennent pas que c'est un message qui leur est adressé. Et c'est malheureux. Donc, pour eux, malheureusement, la Bible n'est d'aucune utilité. Combien de gens, même sous le chapeau du christianisme, dans la famille du christianisme, il y a beaucoup de religions, qui vont connaître des histoires de la Bible, qui connaissent des versets par cœur, qui connaissent la prière du Notre Père par cœur, et qui ne veulent pas qu'on leur parle de Jésus. Pourtant, les Écritures parlent de Jésus. Donc, c'est malheureux. La connaissance seule des Écritures, si on ne connaît pas Jésus, ne sert à rien. La vraie étude de la Bible doit conduire à Jésus, à une relation avec Jésus, que l'on voit, que l'on entend, qui est dans notre cœur. pas à une simple religion. La raison principale pour laquelle les gens rejettent le témoignage de Dieu, Jésus en parle au verset 41 jusqu'à la fin. On va relire ce passage-là. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si c'est un autre qui vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Bon, on pourrait en débattre, là, mais je vous propose que la raison principale pourquoi les nombreux témoignages qui sont rendus par le Père, par les prophètes, par les Écritures, par les œuvres que Jésus a accomplies, par les miracles, et qui continue d'accomplir même aujourd'hui dans nos vies, pourquoi la majorité des gens rejettent ces témoignages-là et continuent de ne pas vouloir croire en Jésus? Je pense que fondamentalement, c'est l'orgueil. C'est ce qui a causé la chute de l'homme, c'est ce qui a causé la chute de Satan. L'orgueil qui nous rend incrédules, vaniteux, rebelles, c'est la même raison pour laquelle la majorité de la population mondiale rejette les preuves que Dieu a données à propos de Jésus. Dieu n'a pas simplement envoyé son Fils, il a prouvé, il a attesté qu'il est bel et bien son Fils. Et les gens rejettent ce témoignage-là, principalement à cause de l'orgueil. Jésus lui se présente comme étant à l'opposé. Il n'est pas orgueilleux. Il dit, je ne reçois pas la gloire des hommes. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Ça ne l'intéresse pas. Comme on dit au Québec, il s'en fout de recevoir la gloire des hommes. Ce qui intéressait Jésus pendant son ministère sur terre, c'était de recevoir la gloire de Dieu. C'est-à-dire la louange de Dieu, l'approbation de Dieu. Jésus voulait tout faire qui allait être agréable à Dieu. Il allait plaire à son Dieu. Mais les Juifs, qui étaient orgueilleux, préféraient voir des leaders. Et selon les historiens, dont l'historien Joseph, à l'époque de Jésus, après la venue de Jésus, là, jusqu'à l'an 70, il y a eu plusieurs faux Christ qui sont venus. Et ils se glorifiaient eux-mêmes. Ils venaient en leur propre nom, avec une déclaration. Ils cherchaient la gloire, les applaudissements. Et généralement, ils étaient bien reçus. Jésus le dit ici, vous recevez ceux qui viennent en leur propre nom, qui cherchent la gloire des hommes. Et vous les glorifiez. Vous vous glorifiez les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'il préférait les gens qui recherchaient la popularité, les applaudissements? Mais ça dévoile un intérêt personnel. Quand on a plusieurs idoles et qu'on les applaudit, là, qu'on les vénère, ça dévoile probablement qu'on a ce désir-là soi-même d'être adoré, vénéré et glorifié. Souvent sur les réseaux sociaux, là, il y a comme ce combat-là là, de qui va être le plus populaire, mais souvent, c'est comme une œuvre collective. Là. Ils se félicitent les uns les autres. Si tu félicites les autres vont te féliciter toi aussi. Ça ne se voit pas seulement sur les réseaux sociaux, ça peut se voir dans tous les contextes, et même dans le milieu chrétien. Mais quand on est prompt à glorifier ceux qui sont orgueilleux et qui se vantent, ça dévoile que nous aussi, on souhaiterait être glorifiés. Donc, les Juifs désiraient ça eux-mêmes. Et ils se glorifiaient les uns les autres, Jésus le dit au verset 43. Ils prétendaient aimer Dieu. Ils prétendaient avoir voué leur vie aux Écritures parce qu'ils aimaient Dieu. Mais Jésus dit non. Vous n'avez même pas l'amour de Dieu en vous. Ce n'est pas vrai que vous aimez Dieu. Ils prétendaient vouloir glorifier Dieu, mais ce n'était pas vrai. Ils voulaient se glorifier eux-mêmes, glorifier leur cercle, leur secte même. Donc, ils ne se souciaient pas de ce que Dieu pensait d'eux. Ça montre qu'ils n'avaient pas une foi réelle. Ils pouvaient dire une chose et dans leur vie personnelle vraiment agir tout à fait contraire. Ils pouvaient mentir sans que ça leur dérange parce qu'ils n'avaient pas conscience que Dieu les observait et jugeait de leurs actions. Donc, ça montrait qu'ils n'étaient pas en relation avec Dieu. Ils cherchaient la gloire des hommes, l'approbation de leur Père. S'ils avaient vraiment aimé Dieu, ils se seraient souciés de lui plaire. Quand on aime quelqu'un, même un ami ou un fiancé, on cherche à lui plaire. Dans nos actions, c'est normal. On espère que la personne va avoir une bonne opinion de nous, mais dans un bon sens. Mais pour les hommes, la personne la plus prioritaire, là, pour qui on devrait chercher l'approbation, c'est bien notre Créateur, c'est Dieu. Dans Romains 2, 29, on lit que le vrai juif, c'est celui qui ne reçoit pas la louange des hommes, mais de Dieu. Donc, il y avait une foule de faux juifs. Le vrai juif, que dit Paul, là, c'est celui qui vraiment qui cherche l'approbation de Dieu, la gloire qui vient de Dieu. Et Jésus n'a cherché à recevoir que la gloire qui vient de Dieu. C'est pour ça que les hommes ne l'ont pas aimé. Il est venu, Jésus, puis il était trop humble. Il ne cherche pas l'approbation, même il fait des gestes que nous, on condamne. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a été connu, oui, pour ses miracles, mais dans le cercle des chefs religieux, il a été détesté. Pour les Juifs, c'était particulièrement une faute grave de ne pas vouloir écouter Jésus. Jésus développe au verset 45, « Ils pensent être sauvés par leur attachement à la loi de Moïse, Moïse qu'ils vénéraient. » Ils pensaient peut-être que Moïse était orgueilleux comme eux, mais pourtant il était humble. Donc, les Juifs pensaient avoir le salut, être sauvés par leur attachement à la loi de Moïse, mais c'est cette loi-là même qui les condamne. Jésus dit, « J'aurais même pas besoin de vous accuser devant le Père. » C'est Moïse, là, celui que vous vénérez, là, c'est lui qui va vous accuser. C'est lui qui vous condamne. Pourquoi? Ben, logiquement, premièrement, parce que s'ils mettent leur espoir dans la loi pour être sauvés, ben, on doit convenir qu'il n'y a personne qui est capable d'obéir à la loi. Et même eux qui la connaissaient le plus dans la population étaient incapables d'obéir. Donc, la loi faisait simplement révéler qu'ils étaient incapables d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, ça les condamnait. Mais Jésus va plus loin que ça. C'est que la loi qui a été révélée, tout cela pointait, annonçait la venue de Jésus. Et s'ils rejettent Jésus qui est annoncé par la loi, ben, ils s'opposent à la loi. Donc, ils s'opposent à Moïse, donc ils s'opposent à Dieu. Et non seulement la manière dont la loi est écrite pointe à Jésus, mais Dieu a même spécifié directement qu'un jour, le prophète allait venir. Il dit dans Deutéronome, par la bouche de Moïse, il dit à Moïse pour qu'il le dise au peuple, Deutéronome 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Et lorsque le ciel s'est ouvert au baptême de Jésus, là, Dieu a dit, « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. » Ça voulait dire que c'est lui là, que les gens attendaient. Sur la montagne de Transfiguration aussi, quand la voix de Dieu s'est fait entendre, Dieu a dit, « Écoutez-le. C'est lui. » Donc, ne pas écouter Jésus, c'est s'opposer directement à Dieu. Dieu veut notre obéissance, mais le premier commandement qu'il nous donne, c'est de croire en son Fils. Donc, si les Juifs ne croient pas en Jésus, ça démontre qu'ils ne croient pas réellement aux Écritures. C'est secondaire, ça. Est-ce que les Écritures sont en train de s'accomplir ou non? Donc, ils n'ont pas réellement la foi. Donc, en résumé, si beaucoup ne croient pas en Jésus, ce n'est pas à cause d'un manque de preuves. Ce n'est pas vrai que la foi chrétienne, c'est juste une question d'opinion. Le sentiment que c'est subjectif. Il y a des preuves tangibles. Le Créateur s'est adressé à sa création, à sa créature, et a donné les preuves. Il a témoigné par les œuvres de Jésus même, par les prophètes qui ont annoncé sa venue, pendant toutes les Écritures. Et Jésus a démontré qu'il accomplit tout ce qui a été annoncé. Donc, même quand on étudie le Nouveau Testament et qu'on compare avec l'Ancien Testament, ça apparaît clairement, là. Jésus accomplit tout ce qui a été annoncé. Dieu a témoigné par le ministère de Jésus, par le pouvoir qu'il lui a donné d'accomplir ses miracles. Donc, notre foi chrétienne, elle est solidement fondée. Ce n'est pas fondé simplement sur des opinions. C'est fondé sur des preuves divines, dont la plus grande preuve, c'est la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'on célèbre autant la résurrection de Jésus dans nos chants. Le fait que Jésus est sorti de la mort, qu'il a vaincu la mort, ça montre toute la puissance de Dieu à l'œuvre pour défier notre plus grand ennemi. Mais ça prouve aussi que Jésus est le Sauveur, le Seigneur. Et ça prouve que Dieu nous aime. Ça prouve l'amour de Dieu pour nous. Donc, on a tout ça, toutes ces preuves-là. C'est quoi le problème? Pourquoi beaucoup ne veulent pas croire en Jésus? Même parmi ceux qui étudient l'Ancien Testament, bien, l'incrédulité, ne pas vouloir croire, qui provient fondamentalement de l'orgueil, de la vanité, de se penser au-dessus qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais c'est un orgueil qui est mortel, malheureusement. Donc, prions pour que Dieu touche les cœurs des gens qui sont captifs de cet orgueil. Comme Jésus le décrit, ils sont aveugles, sourds, la parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. Et même s'ils lisent un traité avec des versets bibliques, si Dieu ne touche pas leur cœur, ils vont rester insensibles. C'est pour ça que nous sommes invités à prier pour que Dieu touche les cœurs, qu'il sauve, qu'il accorde la foi, la repentance, qu'il fait une transformation, même comme une résurrection dans le monde spirituel, pour que l'esprit de la personne renaisse et soit capable de comprendre qui est Jésus et croit en lui. Puis même après, nous qui sommes chrétiens, faisons attention de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Ça va nous faire tomber dans une foule de péchés. Et nous allons, inévitablement, si nous sommes orgueilleux, recommencer à chercher la gloire qui vient des hommes, à chercher les félicitations, la popularité, la renommée. Recherchons la gloire qui vient de Dieu. C'est normal qu'on ait besoin de la gloire et qu'on désire la gloire. On a été créé pour être dans la gloire de Dieu. C'est ce qui nous attend. Mais la seule gloire que l'on devrait espérer obtenir, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est la gloire divine à laquelle il va nous faire l'honneur de participer. C'est la gloire qui est obtenue par la foi, et une foi qui passe l'épreuve du temps, une foi qui est éprouvée, une foi qui persévère dans toutes les difficultés de la vie chrétienne, même devant la persécution, qui persévère jusqu'à la fin. Et même dans les épreuves, qui est une foi qui procure une joie, parce qu'on espère en quelque chose dans lequel on est convaincu. C'est une joie qui provient de notre espérance. Pierre résume tout ça dans 1 Pierre 1. « Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve à être un sujet de louange, de gloire et d'honneur. » Donc, notre foi qui nous fait persévérer à travers les épreuves, notre foi même va être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Amen.